12 octobre. Je crois que c'est Columbus Day, non?
Pas d'idée.
Quoi?
Je crois. Je
crois aux États-Unis, on un jour pour fêter Christophe Colomb. Je sais pas pourquoi, c'est maintenant, je sais pas. Non, peu importe. Je pensais à ça et je pensais au fait que je n'étais pas là la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, à cette heure-ci, j'étais dans le centre tibétain près de Limoges, Deshen Choling. Et le vendredi, chaque jour, on avait comme trame pour notre semaine. C'était une semaine d'écriture et méditation. Et comme trame, j'ai pris le texte de Maître Dogen, le célèbre texte « Étudier la voix », c'est étudier le soi-même. Étudier soi-même, c'est s'oublier soi-même. S'oublier soi-même, c'est d'être éveillé par les 10 000 choses. Être éveillé par les 10 000 choses, c'est abandonner son corps et son esprit et le corps et l'esprit de l'autre. Et puis, je ne me souviens pas exactement la citation, je l'ai écrite. Abandonner son corps et l'esprit et le corps et l'esprit de l'autre, c'est laisser laisser se déployer l'incessant éveil sans trace ou quelque chose comme ça. Et donc chaque jour, il y avait 5 jours, chaque jour c'était à propos d'une de ces phrases. Et on a commencé avec le premier et on a pris une évolution. Et donc vendredi aurait été abandonner son corps et son esprit et le corps et l'esprit de l'autre. Être éveillé par les 10 000 choses, c'est... Et ce jour-là était... consacré principalement à la forme haïku et les haïkus c'est des petits poèmes de 3 lignes, je ne sais pas si tout le monde est au courant de ça, et avec des phrases très courtes, et on avait écrit ça de différentes façons. On avait écrit ça en groupe. Donc chacun faisait une ligne, on a fait ça oralement, donc juste assis là en cercle et chacun disait quelque chose, et qui voulait disait une ligne. On a fait ça en cadavre exquis, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas ce que c'était des autres lignes. Les cadavres exquis, c'est des trucs que les surréalistes faisaient, où il y avait une feuille et quelqu'un dessinait la tête. Puis c'était plié, quelqu'un d'autre dessinait le torse, le corps, et c'était plié, et quelqu'un d'autre dessinait les jambes. Et donc, tu avais cette figure qui était de 3 personnes différentes. Et donc, on a fait ça. On a écrit les haïkus juste restant dans la pièce où on était, ou allant dans le salle manger, par exemple. On a écrit ça dehors parce qu'il faisait très beau, et donc on a fait ça dehors. Donc on a fait ça de différentes façons, et on avait beaucoup lu, parce que mon expérience au fur et à mesure que je fais ces ateliers, c'est que c'est nécessaire de s'imprégner de ces formes, de les entendre beaucoup pour intégrer le rythme et de quoi il s'agit, pas avec la tête, mais presque physiquement. Et j'ai surtout rencontré ce problème quand j'étais en Allemagne, au mois de mai. Et c'était que 2 jours. Et donc, je pense qu'on avait fait juste une matinée ou un après-midi avec des récords. Et comme je n'avais pas de traduction en allemand, des haïkus, j'ai amené en anglais. Ça existe en allemand, mais je n'ai pas eu le temps de trouver. Et ils étaient perdus. Bon, c'est aussi que c'est des Allemands. Et donc, ils ont... C'est comme s'ils ont besoin de vraiment comprendre. Et il y a une règle, et donc il faut le suivre. Et donc, si la règle c'est 3 lignes, 5 syllabes, 7 syllabes, 5 syllabes, il faut le faire. Bien que je disais que non, c'est juste donné comme paramètre que, juste pour se rappeler que c'est des lignes courtes, etc. Ou d'autres indications que je donnais. Bon. Je me suis rendu compte que ce qu'on aurait dû faire, c'était lire beaucoup, beaucoup de haïkus avant. Et en allemand, peut-être. Parce qu'en anglais, c'était pas leur langue, etc. Donc, on en a beaucoup lu, là, vendredi dernier. Et en français. Et puis, on a beaucoup écrit de différentes façons. Et puis l'après-midi, quand on avait fait... avant d'aller dehors, quand il y avait une espèce de... les retours sur l'expérience du matin, il y avait une femme qui, quand j'ai expliqué le matin et quand on lisait, etc., elle disait, mais je vais bien le faire, mais je suis perdue. Je suis perdue dans ce truc. Je ne comprends pas très bien, etc. Je dis, t'inquiète pas, c'est ok, j'ai perdu, etc. Et puis l'après-midi, quand on avait le retour, et avant d'aller dehors, un jeune homme a dit, ok, j'écris oui, le papillon sur le fleur. Vendredi après-midi, le soleil brille. Un truc comme ça. Il me dit, mais pour moi, c'est juste 3 observations que j'écris comme ça, je vois pas vraiment l'intérêt. Comme ça. Et donc, j'ai parlé de. Tout de suite, quand j'ai entendu ça, j'entendais ce qui manquait, ou ce qui pouvait l'aider. C'était que un des aspects du haïku, c'est l'émotion. C'est le feeling, exactement, c'est le cœur. Et si on reste juste, on regarde, on note un truc, on regarde, on note un truc, et on regarde et on note un truc, le cœur n'y est pas. Et donc, je lui ai suggéré qu'il pouvait se regarder ça. Quand il voit le papillon sur le fleur, qu'est-ce qu'il ressent? Ou comment ça résonne pour lui? Qu'est-ce qui se passe pour lui à cet instant-là, et noter ça. Et la femme qui était à côté de lui, qui avait eu des difficultés, soudain s'est dit, ah, elle a fait comme tu as fait, elle a dit, mais c'est le cœur, c'est pas la tête, c'est le cœur. Et je dis, voilà, justement. Et c'est comme si elle a eu un moment, ah, elle a compris. Enfin, c'est pas avec sa tête, mais elle a senti. Et je lui dis, et voilà, donc, vous voyez, de abandonner son corps et son esprit, et le corps et l'esprit de l'autre, c'est abandonner ce que la tête pense, que le corps pense, c'est pas abandonner le cœur, mais c'est de ne pas être dans une idée de corps et esprit, tête, cœur. C'est juste, quand on dit cœur dans ce contexte, c'est juste être. Et c'est pratiquement... C'est dire témoigner, c'est trop, déjà. Et c'était très intéressant pour moi. C'était très instructif pour moi. Ça me donne toujours des pistes de comment aborder à la fois l'écriture et la méditation autrement. Je suis toujours à la recherche de comment je peux servir de ce que les gens me disent, les expériences qu'ils présentent, qu'ils relatent, etc., pour mieux faire ou dire. Et cette histoire de haïku, des deux expériences des deux personnes là, a à voir aussi avec la méditation. Parce que je pense que pour les deux, ça avait un effet. Ça, parce que ce que toutes les deux présentaient, c'était comme si c'était leur on dit issue, leur
problème.
Je sais pas si issue, c'est pas forcément un obstacle ou un problème. J'allais dire leur problématique, mais c'est pas que c'est un problème.
Leur challenge.
Oui, peut-être c'est leur défi, leur. C'est toujours le thème de leur processus ou un truc comme ça, peut-être. Dans tout ce qu'on faisait et ce que j'entendais de ce qu'ils racontaient et ce qu'ils écrivaient, etc. Et c'était très intéressant que ça s'est pointé d'une façon cristallisée pour toutes les deux, parce que le jeune homme qui était un peu fragile et qui, je ne sais pas exactement ce qui se passait pour lui, mais il nous parlait toujours de ses difficultés et qu'il ne se sentait pas bien par moment, etc. Je ne sais pas ce qui se passait pour lui exactement. Ça allait, ça va, il n'était pas un cas psychiatrique, hein, mais je sentais qu'il passait un truc difficile. Et donc, je pense que pour lui, d'une façon inconsciente, probablement, instinctivement, ou pour se protéger, je pense qu'il voulait pas trop le cœur. Il voulait juste être dans la clinique. Parce que peut-être ça le faisait peur, le cœur. C'était trop. Moi, je n'ai pas utilisé mon cœur avec lui. Je lui ai suggéré simplement de noter ce qu'il sentait vis-à-vis ce qu'il observait. Et elle, la femme, c'est presque comme si son processus, et à la fois avec la méditation et avec l'écriture, était de se lancer d'abord avec sa tête et à son insu, je pense souvent, elle finissait avec son cœur. Elle arrivait à son cœur, mais je pense que c'était à son insu. Je pense qu'elle voyait pas ce processus. C'est beaucoup plus facile pour quelqu'un de l'extérieur de le voir. Je ne dis pas qu'elle était aveugle. Et donc, surtout quand j'écoute les gens, j'ai une écoute qui est bien entraînée pour entendre ce genre de choses. Donc, mais ça m'avait enseigné que comment dire? Mais comme c'était le vendredi, il y avait cette semaine, et au début de la semaine, ces choses étaient évidentes pour ces gens, mais d'une autre façon. Mais au fur et à mesure que le processus s'installait, et on faisait notre travail, et on faisait notre méditation, et on explorait les citations de Dogen, et dans l'écriture, et dans la méditation, et dans les talks, les enseignements que je donnais, etc., je sais. Moi, j'avais totale confiance qu'ils allaient descendre en eux-mêmes et découvrir les choses. J'ai aucune idée quoi. Je ne savais pas du tout ce qu'ils allaient découvrir et je n'ai même pas réfléchi à ce qu'ils allaient découvrir. comment ça allait se passer pour chacun. Mais j'ai confiance, j'avais confiance qu'il y aura quelque chose, il se passe quelque chose. Et donc peut-être, maintenant que je pense, cet enseignement, pour moi, c'était ça. C'était que, pas, oui, j'avais raison, mais que ça me donnait confiance encore. Ça renforçait la confiance que j'ai dans ce processus, qu'il se passe des choses. Peut-être toutes les deux, ils ont complètement oublié ça et sont passés à l'autre chose, j'en sais rien. C'est pas très important. Enfin, si, c'est important, mais dans ce que je dis là ce soir, c'est pas. Parce que je ne suis pas dans un optique de, quand je dis que j'ai confiance que dans le processus, c'est pas que je cherche à calculer ou mesurer. Donc, mesurer le chemin que quelqu'un a fait. Ou faire une hiérarchie de ce qu'il faut sentir ou combien il faut descendre ou ce qu'il faut se rendre compte. C'est pas du tout ça notre pratique, pas du tout. C'est vraiment quelque chose à chaque instant, qu'est-ce qui se passe. Et c'est un peu comme, je sais pas si je peux restituer ça. J'ai lu quelque chose qu'une psychanalyste avait écrit récemment, où elle s'était présentée comme une conversation. Je crois que c'était un extrait d'un livre qu'elle a écrit, je ne sais pas. Mais c'était relaté comme une conversation. Et donc, la personne dit, « Ah, donc, le psychanalyste... Il y a des psychanalystes qui sont pas empathiques. » Qui n'ont pas d'empathie. Empathie, on dit ? Oui. Donc, ils ne sont pas empathiques. Je crois que c'était ça. Et elle a dit oui, j'en fais partie. Et l'autre, donc, c'était une espèce de question-réponse sur l'empathie, etc. Grosso modo, elle venait à. Elle se définissait comme apathique. Ça existe, l'apathie, ou elle a inventé ce mot ?
Non, je pense que c'est un peu l'apathie.
Mais c'est autre chose.
Ouais, c'est...
Qu'est-ce que tu veux dire
par là ? Apathique.
Mais tu veux dire quoi,
apathie.
Toi, par là ?
Bah, son point de vue, ce qu'elle disait, c'est ça que je me rappelle, c'est qu'elle disait que si on est empathique, c'est comme si on a un projet. Quand on a... c'est sa définition, elle. Hein. Je ne dis pas que c'est la définition à tout le monde. Juste dans le dictionnaire, je ne sais pas. Mais pour elle, en tant que psychanalyste, si elle était en empathie, elle cherchait à comprendre et situer selon ses idées. Je vulgarise un peu ce qu'elle a dit, je ne me souviens pas exactement. Tandis que si elle était apathique, c'est qu'elle était juste...
Neutre.
Oui, elle n'a même pas employé le mot neutre, mais elle accueillit ce qui était dit. Elle écoutait. Et comme ça, elle pouvait vraiment écouter parce qu'elle n'avait pas de projet. Bon, c'est un truc comme ça. Bon, peu importe. Mais ça m'avait frappée parce que ça me parle, ça. Parce que je sais que si j'ai un projet pour quelqu'un, ou si j'essaie de trouver... Oui, parce que c'était dans le truc où essayer de guérir la personne, son truc d'empathie. Et que si on est en train de guérir et trouver, si on pense que la personne est malade et on doit la guérir, on est dans un projet déjà. Je ne dis pas que c'est ma situation, mais si moi je suis dans une situation où je veux que ces gens qui écrivent et qui méditent avec moi arrivent quelque part, je ne suis pas vraiment là à l'écoute de ce qui se passe pour eux. Parce que j'ai une idée de où ils doivent aller. Et je pense que cet instant-là, quand le jeune homme a dit quelque chose, et puis la femme a dit quelque chose, et c'était « aha » pour elle, je crois que lui aussi, ça a fait quelque chose. Et pour moi aussi, ça m'a fait quelque chose. Je n'aurais jamais pu programmer ça. J'aurais jamais pu dire, avec ces citations de Dogen, c'est là où je veux venir. Pas du tout. Avec ce travail sur les haïkus, c'est là où je veux venir. Pas du tout. c'est presque le contraire. C'est, je suis presque dans le je ne sais pas. Je sens que telle ou telle proposition d'écriture correspond pour moi à tel ou tel aspect de la citation de Dogen, mais je ne sais pas vraiment pourquoi. Et je ne cherche pas à définir ça. Je pensais à ça parce que c'était vendredi dernier. Vendredi dernier, j'étais pas ici. Mais c'est aussi vrai là. C'est comme on a eu cette situation cette semaine avec quelqu'un qui voulait l'espace, il y avait un conflit, etc. Et je reste toujours avec quel est le... de quoi il s'agit, aussi bien pour moi que, mais surtout pour l'autre personne, qui est vraiment focalisée sur un point, sur une chose, et tout son discours tourne autour de ce truc, et j'essaie de comprendre de quoi il s'agit. Bien sûr, je sais plus ou moins de quoi il s'agit, mais plus profondément, pourquoi cette chose-là? Qu'est-ce que ça représente? Ça m'aide à essayer de l'écouter autrement et d'essayer d'agir autrement. Bon, la situation s'est plus ou moins réglée. Mais bon, on verra. Et donc tout ça, c'est de... ça s'applique à nous-mêmes quand on est assis, on est censé s'asseoir, enfin, sans projet, sans objectif d'arriver quelque part. C'est extrêmement difficile parce que notre tête est tellement prise par les projets, les objectifs, et même l'intention, que c'est difficile à ne pas faire ça. Mais ce qu'on découvre, si on reste assis et on le fait, et on le fait, et on le fait, que tous nos projets qu'on puisse avoir, dans la méditation aussi, on dit ok, je sais pas ce que c'est, ça peut être les objectifs, je vais rester là et je vais penser à quelque chose ou je ne vais pas penser à quelque chose, ça va pas se passer comme ça.
En même temps, si on se dit qu'on va compter, si on compte notre respiration, il faut quand même toujours en train de se dire je reviens et je compte.
Oui. Oui, mais on se rend compte que on va être obligé de revenir tout le temps. Et puis bon, pourquoi pas? Enfin,
pourquoi pas?
Je veux dire, c'est pas un problème de revenir, de partir et revenir. C'est pas un problème. Mais si on a un projet de partir et revenir, on va partir et revenir de ce projet aussi. C'est-à-dire que et on sera pas du tout présent à ce qu'il y a là. On sera présent à notre projet plutôt que ce qui est.
Aussi être présent à partir et revenir, en fait. C'est un peu, un peu le sens de ça. Ça me fait penser à... Je crois que c'est dans Zen Mind, Beginner's Mind, que il y a un truc comme... commencé, mais l'idée c'est... Si on se rend compte qu'il y a un problème dans notre pratique, continuer en... Ah non, c'est si on se rend compte que... C'est dans ce sens de pratiquer sans projet. Et je me souviens plus le mot qu'il emploie, c'est pas projet, mais ici, on... peut-être c'est no gain, quelque chose comme ça, je suis pas sûr. Et si on se rend compte qu'on cherche à atteindre quelque chose, alors si on continue à s'asseoir en ayant conscience qu'on est en train d'essayer d'atteindre quelque chose, alors là, on est vraiment assis sans projet.
See that again.
si pendant qu'on est assis, on se rend compte qu'on est à la poursuite de quelque chose, donc qu'on cherche à gagner quelque chose, alors il faut juste rester assis en ayant conscience qu'on est en train d'essayer de vouloir atteindre quelque chose. Et là, à ce moment-là, on est sans projet.
Sans rentrer dans la course après cette chose. Parce que c'est ça, la ruse.
Ça me fait penser aussi à il y a un truc dans les manières dont on traduit éveil. Alors je me souviens plus de l'origine chinois ou japonais, mais il y a un truc qui se joue en un des sens d'un mot en chinois ou japonais qu'on traduit par éveil, c'est quelque chose qu'on atteint après avoir pratiqué. C'est je crois que le mot c'est chaud et ça désigne un aboutissement, quoi. C'est on pratique, que ce soit zen ou bien autre chose, et au bout d'un moment on arrive à quelque chose. Et que c'est justement que alors toujours je me souviens plus dans les mots en japonais, mais Dogen, je crois, joue là-dessus au moment où il dit de practice realization, les deux, où il colle deux mots ensemble comme ça, pratique et réalisation comme une seule chose. Et il fait ça pour dire que justement on ne pratique pas pour obtenir quelque chose, et que c'est la pratique et la réalisation sont une chose, une seule chose, pas deux choses séparées. C'est pas on pratique pour réaliser, c'est on pratique et on réalise en même temps. Et en fait, je trouve que c'est intéressant parce que Maezumi, qui a pratiqué avec les koans, en fait, j'ai eu fait un cours sur comment le zen s'est transmis, enfin comment son vie du Japon en Occident, et il y a un truc qui est assez intéressant, c'est il y a un moment où il y a un maître, je me souviens plus qui c'est, qui était un moine de la lignée du Soto, qui est parti parce que parce que dans la lignée dans laquelle il pratiquait, dans Soto, l'idée c'était il n'y a pas de réalisation, il n'y a pas d'éveil. Et lui ça ne lui plaisait pas. Donc il est allé voir du côté du Rinzai. Et il a pratiqué avec les koans. Et il a reçu la transmission de maître Rinzai. Puis il est revenu dans Soto. Et ce personnage-là, ça a donné la lignée de Yasutani et Maezumi. Et,
c'est Tenkei Danson.
Ah, j'ai un souvenir de Hashimoto.
Ah non, c'est moi.
Et donc, je trouve ça assez intéressant que dans le Rinzai, Donc cette personne-là a quitté le zen, a quitté le soto, où on dit il n'y a pas d'éveil, où le pratique et la réalisation sont une seule chose, pour aller dans le rinzai, où il y a une notion d'éveil avec le kensho, si j'ai bien compris. Et je me demande comment ça s'articule, comment. Tu vois, du coup, ça me pose des questions, c'est. Si on pratique avec les koans, par exemple, est-ce que. Comment ça s'articule, ça, cette idée de pratique réalisation, c'est une seule chose, et la pratique des koans, où, bon, si j'ai bien compris, peut-être que j'ai pas bien compris, il y a une poursuite d'une expérience qui est le kensho, ou le kensho ou l'éveil. Est-ce que c'est pas clair ce que je dis, je sais pas.
Si, enfin, pour moi, je sais pas si.
Voilà, la question c'est comment, enfin, c'est vraiment comment on fait. Si on dit qu'on pratique sans poursuite d'un éveil, comment est-ce qu'on articule ça et la pratique des koans finalement? C'est presque contradictoire, on dirait.
Mm-hmm. Ouais. Oui, et c'est le grand. Tu touches à la question fondamentale qui occupe tellement de gens dans les deux. Courants. Et la particularité de notre lignage, c'est que pour nous, c'est pas un problème. Enfin, on a les deux. Et Maizumi Roshi est allé pratiquer avec des maîtres Rinzai parce que son père, qui était son maître Soto, lui a conseillé de le faire. Il a dit maintenant, tu dois aller pour approfondir ta pratique, je sais pas exactement ce que c'était là. Alors, comment dire, parce que pour moi les deux sont vrais. Je comprends complètement, entièrement ce qu'il dit Dogen à propos de pratique et réalisation. Et je suis aussi évidemment. Maître des courants, enfin, les deux sont vrais pour moi. Parce que je crois que c'est juste deux approches différentes. Bien sûr, je ne sais pas comment quelqu'un qui est entre guillemets pur soto et qui n'a pas pratiqué les courants, comment eux ils vont le dire. Mais pour moi, j'ai l'impression que si j'interprète de ma façon, la réalisation vers laquelle on va avec les courants, les courants pointent vers, ce n'est pas autre que ce que Dogen dit. La différence, c'est qu'il faut pratiquer, il faut faire tout ce truc avec des courants pour se rendre compte de ça. Tandis que je pense que dans le soto, il faut juste s'asseoir, dropping off body and mind, comme Dogen disait. Mais bon, il y a aussi un malentendu, c'est que Dogen, il travaillait avec des courants, en fait. Il parle beaucoup des courants. Donc, je sais pas.
Mais les courants sont censés produire l'éveil.
C'est pas que ça produit quelque chose. C'est un outil qui peut favoriser, qui peut cultiver le terrain pour qu'on lâche nos idées, nos concepts. Notre façon dualiste d'aborder le monde et avoir un aperçu de l'unité de toutes choses, la véritable nature de toutes choses, les choses telles qu'elles sont. Dogen, quand il parle de practice is realization, c'est ça dont il s'agit pour lui aussi. C'est les choses telles qu'elles sont. Elles ne sont pas séparées. Et avec des Corons, c'est ça aussi. C'est ça qui est. Ça, c'est un outil, même un tool, pour favoriser l'interview. Mais je ne dirais pas que ça produit quelque chose. Encore une fois, c'est un processus. C'est comme si on dit que ça produit quelque chose, c'est comme si on dit s'asseoir pendant 8 heures par jour pendant 10 ans dans un monastère produit quelque chose. Ça ne produit pas. Mais ça, d'une autre façon, ça cultive le terrain pour cet accident qui est ce qu'on peut, quand on parle de l'éveil, c'est juste l'expérience directe des choses telles qu'elles sont. C'est tout. C'est pour ça qu'on parle de la voile qui tout à l'heure quand on lisait ce texte, cette critique du livre où il parlait de que la réalité est voilée et dans ce livre donc on a l'impression que l'auteur révèle les choses telles qu'elles sont derrière la voile, etc. Je ne me souviens plus, mais ça m'avait frappé qu'ils ont employé le mot voile. Donc, c'est mon expérience de ça. Et je. Et quand je lis, par exemple, Suzuki, c'est un très bon exemple. Je reconnais entièrement ce qui est dit, c'est mon expérience. Et Suzuki, a priori, n'a jamais fait tout le cursus du Coran que nous on fait. Mais je reconnais entièrement ce qu'il dit, c'est mon expérience. Donc.
La Sutani, il était Soto ou Rinzai?
Rinzai.
Ouais, ok. Et le troisième avec qui Maizumi Roshi a étudié, c'était qui?
Il y avait Koryo Roshi.
Son père et Yasutani.
Voilà, et son père s'appelait comment? Je ne me souviens plus. Avec un B, je crois. Bon. On le cite toujours dans les liens, mais bon. Peu importe. Donc c'est oui, c'est Koryo Roshi et Yasutani.
Et pourquoi dans ce cas-là, c'est pas simplement Rinzai? Pourquoi il y a le mix Soto-Rinzai?
Parce que d'abord, il a reçu les transmissions de son père qui était un maître Soto.
Et du coup, le mélange, c'est juste parce que il a amené les courants dans ce domaine.
C'est que ça. Mais... Dans le Rinzai, ils n'ont pas les transmissions. Comme dans le Soto. Et dans le Rinzai, ils ont ce qu'on appelle Inka, qui est la reconnaissance de la réalisation de quelqu'un. Et donc, Maizumi Roshi, il a reçu la transmission Soto, que moi j'ai reçu aussi. Et après, son père, lui, a dit d'aller étudier avec des maîtres Rinzai. Et donc, il l'a fait. Et il a reçu la reconnaissance, l'Inka, de ses maîtres. Et donc, lui, il a transmis les deux aussi à ses disciples, ses successeurs, quoi. Et c'est ce que moi, j'ai reçu aussi.
Mais c'est pas qu'une question de transmission. C'est pas...
Justement, je ne sais pas ce que c'était son père, sa motivation de son père de l'envoyer voir. J'imagine que son père estimait qu'il ne pouvait pas l'amener plus loin. Et il avait besoin d'aller voir ailleurs.
Il a fait ça longtemps.
Quoi?
Rinzai, ça a duré longtemps.
Je crois, mais je ne suis pas sûre, parce que quand il est venu aux États-Unis, Masumi Roshi, il est venu avec Yasutani et il était l'attendant de Yasutani, le jisha de Yasutani. Mais il était déjà sensei, il avait déjà reçu la transmission de son père. Et donc quand Bernie l'a rencontré, Bernie est venu à une retraite où il y avait Yasutani et Kori Hiroshi. C'était pas du tout, et Masumi était là parce que il était son assistant, et donc c'est comme ça que Bernie a rencontré Masumi. C'est parce que c'est dans une pause, il a demandé à Masumi Roshi pourquoi on fait kinin, et c'est là où Masumi Roshi lui a dit: when we walk, we just walk. Et Bernie, c'était très important pour lui. Et je pense qu'il a été pratiqué un peu plus avec Yasutani et Koryu, mais en fait, eux, ils sont repartis au Japon et Masumi Roshi est resté aux États-Unis. Et Masumi Roshi n'avait pas terminé ses études avec Yasutani, il a continué. Je ne sais pas combien de temps, mais je pense que ça avait continué quelques années quand même, hein, pendant qu'il était aux États-Unis, Masumi Roshi. Mais je ne sais pas combien de temps avant il avait fait. Et si, pour être plus spécifique à nous, à notre sangha et moi, à ma façon de travailler avec des gens, moi j'essaie de, un peu avec ces gens, les écrivains méditants, hein, j'ai tout un tas de choses dont j'ai l'expérience, les enseignements que j'ai reçus, des choses que j'ai lues, j'ai étudiées, etc. Et selon la situation, je les applique ou je réponds à la situation de chacun selon ce qu'il présente, etc. Et parfois, c'est pas des courants. Parfois, c'est des courants. Enfin, c'est pas... c'est très riche de possibilités de travailler avec des courants ou pas, je trouve. Et même parfois s'arrêter. À plusieurs reprises dans ma pratique avec Roshi, j'ai arrêté. Elle m'a demandé d'arrêter pendant un temps. Ou moi j'ai choisi d'arrêter pendant un temps. Quand j'étais enceinte, par exemple, ça présentait aucun intérêt, je trouvais. Tout était d'une évidence. Quelles questions j'avais à poser? Quand on est enceinte, et non, c'est particulier quand même, hein, d'être enceinte. Donc j'ai arrêté les courants pour l'instant. Mais à d'autres moments aussi. Pour dire que je n'oblige personne à travailler avec des courants, et pour l'instant, je n'étais pas amenée à interdire quelqu'un à travailler sur les courants. Interdire. Je sais que Roshi fait ça parfois. Quand elle demande aux gens d'arrêter, c'est parce qu'elle trouve que c'est pas bon pour eux, pour leur pratique, de travailler sur les courants. Moi, je n'étais pas vraiment amenée à ça, mais il y a des gens... Tu sais, il y a des gens que je ne vois pas souvent qui travaillent sur les courants, donc je ne suis pas du tout dans la même optique qu'elle est.
Et qu'est-ce qui est pas bon, on va dire, à un moment de travailler? C'est parce qu'on devient obsédé par le courant et qu'on en oublie...
Oui, je pense que si on si on a, si on fait ça comme quelque chose de, comment dire, comme un objet, si on travaille avec le corps comme un objet, on va obtenir quelque chose, on va arriver quelque part. Si on il y a des gens qui, bon, ils ont compris entre guillemets quelque chose sur le Coran, et donc ils ne travaillent pas vraiment sur le Coran, ils répètent les choses, ils vont dire, ah, c'est l'astuce de faire ceci ou cela, ou de dire ceci ou cela, ou je vois où on veut venir. Et ce n'est pas du tout un travail, ce n'est pas du tout quelque chose de... Donc dans ce cas-là, il vaut mieux juste s'asseoir. Parce que peut-être dans ce cas-là, il y a plus de chances de vraiment travailler, de faire quelque chose dans sa pratique, si on n'a pas un objet. Mais tout ça, c'est très conceptuel quand je dis ça. C'est vraiment concret, mais je n'ai pas un exemple pour l'instant. C'est aussi un très bon point de départ pour étudier soi-même. Donc, c'est, si on reste avec Dogen, suivre la voie ou étudier la voie, c'est étudier la soi, soi-même. Et les Corans, c'est un formidable outil pour ça. Il y en a d'autres. Mais c'est un truc facile, entre guillemets, que je connais et que je peux utiliser. Ou donner aux gens d'utiliser. Pour donner une structure, parce que quand même, c'est difficile de juste s'asseoir. C'est très difficile. La pratique soto, c'est très très dur de juste s'asseoir. Quoi ? Ok, on va s'arrêter là. Je ne sais pas ce que c'est le titre là, mais bon.